nous sommes toujours de retour en direct hein, sur Radio Plus depuis le 5e Salon des Langues à Béthune. Ça se déroule, je vous le rappelle, à la salle des sports Bernard Georges, rue Paul Doumer. L'entrée est gratuite, ça se termine à 17h. Dans quelques minutes, juste après un petit morceau de Eurythmics, eh bien, on va essayer de parler néerlandais. Bon, ça va être compliqué pour moi, j'avoue, hein, mais bon, voilà, on va essayer de s'initier au néerlandais avec notre prochain invité qui sera également interviewé par Hélène et par moi-même. On remercie au passage l'ensemble des animateurs qui nous ont cédé leur créneau exceptionnellement aujourd'hui, les animateurs de Radio Plus. Voilà, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après en direct pour la première interview, la seconde interview de cet après-midi. Eurythmics à l'instant sur Radio Plus Sweet Dreams, 14h passées de 8 minutes et avec nous un nouvel invité, Hélène.
Oui, donc je suis en présence de monsieur Vanneville Eric, qui est l'ancien président de la Maison du Néerlandais et actuel membre du conseil d'administration. Donc Eric, parlez-nous un petit peu de la Maison du Néerlandais.
Oui, alors la Maison du Néerlandais, c'est une association qui aura bientôt 20 ans. On a été fondée en 99. Et l'objectif principal, qui est resté principal aujourd'hui, c'est de donner une chance aux personnes qui cherchent un emploi sur le marché du travail. Parce que quand même, aujourd'hui, quand on sait qu'en Flandre belge, la population au chômage n'est que de 4%, ça fait une belle différence avec chez nous.
Effectivement.
Et j'ajoute qu'il y a du travail non seulement en Flandre belge, mais également en Flandre française, parce que beaucoup d'entreprises, sur le Dunkerquois comme sur la région lilloise, recherchent des gens qui connaissent le néerlandais pour attaquer le marché au Benelux.
Oui, donc effectivement, pas mal de perspectives, justement, en termes d'emploi.
Complètement. Chaque semaine, nous diffusons des offres d'emploi, d'ailleurs, auprès des gens qui sont inscrits chez nous. Voilà.
Hélène.
D'accord. Et il y avait un deuxième but aussi.
Oui, si vous voulez, c'est beaucoup plus sentimental. Le deuxième but, c'est que la Flandre du Sud, la Flandre en France, c'est la Flandre la plus au Sud, a des apparentements linguistiques par son dialecte flamand avec la langue néerlandaise. Hein, c'est très apparenté. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous étudier la langue néerlandaise. Ça leur donne une vision, je dirais, académique de leur dialecte flamand dans la mesure où ils ont conservé l'usage du dialecte. Voilà. C'est sentimental culturel.
D'accord. Et donc, quel est le coût de cet apprentissage ?
En moyenne, chacune des 300 personnes qui vient chez nous dans l'année débourse 200 euros. Pour une quarantaine de cours, une quarantaine d'heures de cours, sachant que dans les 200 euros, il y a aussi l'inscription à la Maison des Néerlandais pour des raisons d'assurance, ils sont couverts, et il y a aussi l'utilisation d'un laboratoire. Hein, nous avons une dizaine d'ordinateurs qui permettent aux gens de travailler très correctement et même de se brancher sur différents réseaux extérieurs. Donc ça, c'est vous êtes membre de la Maison du Néerlandais, vous avez accès à ce laboratoire en permanence.
Voilà. Comment ça vous est venu, cette envie d'apprendre le néerlandais ?
Ah ben moi j'ai découvert, personnellement je suis historien, hein. Alors j'ai découvert, j'ai un de mes professeurs qui est fort connu dans la région, il est décédé il y a très peu de temps, c'est Alain Lotin. Et Alain Lotin m'avait dit un jour, vous savez Vanneville, si vous voulez bien connaître l'histoire de la région, il faut apprendre le néerlandais. J'ai donc appris le néerlandais et ça m'a effectivement été fort utile pour écrire les histoires de la région. Le plus cocasse dans l'histoire, j'ai dit un jour à monsieur Lotin, voyez, j'ai appris la langue, hein, vous m'avez conseillé, j'ai suivi le conseil. Je dis, et vous-même ? Oh, moi, j'ai jamais eu le temps, m'a-t-il répondu.
Mais dites donc. En tous les cas, voilà, les conseilleurs ne sont pas les meilleurs. Hein,
mais oui, mais absolument.
Alors, du coup, cet apprentissage du néerlandais, vous avez envie de le développer fortement. Et c'est vrai que dans la région, on ne connaît pas grand monde qui parle néerlandais, finalement.
Non,
au contraire de nos voisins belges, qui, eux, parlent parfaitement le français.
Ah, mais totalement. Vous savez la petite blague que sortent nos voisins belges sur nous.
Hein. Allons-y.
Ils disent un homme qui parle trois langues, c'est un trilingue. Deux langues, c'est un bilingue. Une seule langue, c'est un français.
Ben voilà.
C'est comme ça.
Donc, cette envie de développer le néerlandais, ça passe par quoi au niveau de la maison du néerlandais ?
Donc, on ouvre notre maison, on fait des cours chaque jour de la semaine. Généralement, ce sont les cours du soir. Hein. Mais on commence à développer des cours dans la journée. Et puis, les gens donc, ont accès au laboratoire ainsi qu'à la bibliothèque. On a une bibliothèque tout à fait intéressante qui leur permet de s'isoler, en quelque sorte, s'ils veulent faire un petit travail avec du personnel. Par ailleurs, on organise aussi des manifestations, comme chaque année, la dictée du néerlandais. On fait une dictée du néerlandais. Et puis on organise aussi un concours de rédaction. Les gens composent chez eux et puis ils rendent leurs copies, on les corrige et puis tout ça se termine par des classements, les premiers de concours et puis les autres. En général, chaque participant a quelque chose, sachant que les gagnants chaque année sont récompensés par un voyage que nous organisons soit aux Pays-Bas, soit en Flandre belge. Hein. Et ça, ça attire le monde. Hein.
Il y a combien de pays qui sont néerlandophones?
Alors, il y en a deux immédiatement voisins. Ça fait 23 millions de néerlandophones, si on compte les 6 millions de flamands belges et les 17 millions de hollandais, on va dire. Les Français disent les hollandais, en fait. On doit dire les néerlandais, les Pays-Bas. Hein. Bon. Et puis, il y a encore, je dirais, quelques parcelles dans le monde. Il y a par exemple au Suriname, l'ex-Guyane hollandaise. Là, on parle. On a d'ailleurs chez nous, chez nos membres, des gens qui viennent du Suriname. Hein.
D'accord.
c'est déjà arrivé. Bon, donc les Antilles néerlandaises anciennement. Encore un peu dans l'ancienne Indonésie. Dans l'ancienne Indonésie, il y en a encore qui parlent néerlandais. En Afrique du Sud, ils ont plus officialisé le dialecte afrikaans, hein, c'est l'afrikaans. Mais forcément, quand vous parlez un dialecte qui est proche du néerlandais, vous vous mettez aussi à la langue néerlandaise. Mais ce ne sont pas, sauf au Suriname, je pense, ce ne sont pas des langues qui sont officiellement la langue de l'État. Ce sont des restes d'influence historique antérieure. Hein, voilà.
D'accord. Est-ce que le néerlandais est une langue facile à apprendre?
Alors oui et non. Je dirais que d'un point de vue grammatical, c'est facile. L'allemand est beaucoup plus compliqué que le néerlandais. Mais les néerlandais, vous savez, ils ont adapté leur langue aux nécessités du commerce. Hein, ils ont simplifié leur langue d'un point de vue grammatical. Hein, ça va beaucoup mieux.
Avec tous les échanges commerciaux qui existent.
Ils sont les rois du commerce. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein, au XVIIe siècle, on les surnommait les rouliers des mers. Hein, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Et la difficulté en néerlandais, c'est la prononciation. Pour un Français, c'est un peu difficile, la prononciation. Hein, par exemple, je ne sais pas, moi, van zelfsprekend, ça veut dire évidemment. Bon, il faut savoir le dire.
Van zelfsprekend.
Van zelfsprekend. Hein, ou bien een schilderij. Een schilderij, ça, c'est une peinture. Hein, c'est een schilderij. Hein, il faut le dire. Hein, alors, on s'y met. Bon. Et il existe des mots amusants, par exemple le mot le plus long en néerlandais, hein, parce que c'est une langue agglutinante comme l'allemand. Et le mot le plus long en néerlandais, c'est een hotantotententententenstelling, ça veut dire une exposition de tente de la tribu des hotantos.
À vos souhaits. Et donc effectivement, il faut une sacrée maîtrise. C'est en combien de temps on peut réussir à apprendre les bases du néerlandais?
Les bases du néerlandais, moi je pense qu'il faut 80 heures.
80 heures.
80
d'accord.
heures, c'est-à-dire 2 années de cours chez nous, hein, en ne négligeant pas la chance que représente la proximité géographique quand même de la Flandre belge et des Pays-Bas. Celui qui veut l'apprendre, il prend des cours chez nous. Et rapidement, il en sait assez pour aller passer quelques jours là-bas.
Oui.
Hein, je dis là-bas alors que c'est tout près.
Hein. Oui, c'est,
c'est quand même un très gros avantage.
Comment vous expliquez le fait que les Français n'en profitent pas plus que ça?
Que les Français
n'en profitent pas plus que ça?
C'est un peu l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Le français, les langues, vous savez, c'est
un peu le désamour.
Oui, c'est un peu le désamour. Et puis, il reste dans l'esprit français le souvenir du temps où on parlait français en Europe et partout dans le monde, on était compris. Le français était la langue de la diplomatie. Et les grands traités ont été rédigés en français. Et il nous en reste un peu cette idée selon laquelle, comment se fait-il qu'ils ne parlent pas français, les autres, enfin, tout de même, qui s'y mettent. Alors, c'est sans doute pour ça. Alors, peu à peu, les choses ont évolué parce que l'anglais s'est imposé. Et la première langue, je dirais, étrangère, c'est l'anglais. D'ailleurs, nous offrons, à cause de la proximité linguistique entre le néerlandais et l'anglais, nous offrons aussi des cours d'anglais à la maison du néerlandais à Bayeul. Ces deux langues sont très proches. Et celui qui maîtrise ces deux langues, je peux vous assurer qu'il a de très fortes chances de trouver un bon emploi dans notre Europe du Nord-Ouest. Je dis l'Europe du Nord-Ouest, hein, les Pays-Bas, la Belgique, le nord de la France. Pour moi, c'est l'Europe du Nord-Ouest.
Est-ce qu'il y a des mots de néerlandais qui ont influencé le français?
Oui, tous les mots qui viennent notamment de l'activité maritime, hein, ou bien même littéraire, parce que pendant longtemps, les Pays-Bas ont été le pays où il y avait le moins de censure pour livrer, pour écrire et pour publier. Le mot bouquin, ça veut dire le petit livre. En néerlandais.
D'accord.
Hein, vous voyez, ça, toute la question de l'impression, l'industrie de l'imprimerie aux Pays-Bas s'était développée vraiment de très bonne heure. Hein, voilà.
Et je crois qu'il y a des mots aussi plus usuels comme wasang.
Ah oui, oui. Alors ça vient, et j'ai fait un bouquin là-dessus d'ailleurs exprès, ça vient de l'influence des ouvriers flamands, belges, qui sont venus travailler dans la région du Nord au 19e siècle. Et ils ont emporté avec eux leur mot. Alors le mot vassing, bah, c'est vassing, ça veut dire pour laver. Hein, c'est ouais. ça que ça veut dire. Bah, un petit peu comme en anglais, washing. Hein, ouais. Voilà. Bon. Et le mot vassing, oui, bah, oui, bien sûr. Chez nous, on dit pas serpillière, on dit une vassing. Ouais. C'est clair. Hein, voilà. J'ai publié un petit bouquin là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle Les pages flamandes de Moulin-Lille et Oisem. Et où j'ai répertorié tous les mots que les flamands belges nous ont apportés. Et il y en a quand même quelques-uns. Hein, voilà.
Très bien. Alors, donc, vous avez envie aussi avec la maison du Néerlandais de plus en plus de cibler les écoles.
Oui, on porte notre effort depuis quelque temps là-dessus. On est en train de négocier des accords que je vais qualifier carrément d'internationaux, parce que le principe de base, c'est si la Flandre belge nous aide en envoyant des professeurs qui pourront enseigner dans les écoles françaises, nous, en revanche, on va s'arranger pour que des professeurs aillent enseigner le français en Flandre belge. C'est un échange bien compris. Évidemment, il n'y a pas que l'anglais hein, comme langue importante. Hein, oui, on aimerait bien que le néerlandais et le français se tiennent les coudes, l'un et l'autre. Hein, c'est un moyen de progresser en bonne intelligence, je dirais, en bonne intelligence. Je suis toujours navré quand je vois que quand un Français parle de la Belgique, il voit avant tout un pays à conflit linguistique, alors que, vous savez, là, il faut beaucoup, je dirais, nuancer. Hein.
Oui. Bon, Et du coup, à quelle échéance là, c'est déjà en place, ces programmes d'échange entre écoles.
La procédure est en cours. Ouais. On a des documents administratifs qui ont été soumis à la signature des échelons supérieurs. Et ça, on espère fortement que pour la rentrée prochaine, en septembre, ça puisse se faire. Tant dans l'enseignement public que dans l'enseignement catholique.
Hélène, d'autres questions?
Non, pas pour moi.
Voilà.
Si on souhaite, oui.
Je vous dis merci, c'est-à-dire danke all, hein, danke all, hein, et tot ziens peut-être. Hein. Voilà.
À bientôt donc. Ouais. Ok, merci beaucoup. Peut-être un petit mot, si on veut contacter la maison du Néerlandais, comment fait-on?
Oui, on a une adresse mail, je vais laisser votre collègue.
Sur le papier rose.
Sur le papier rose, oui, voilà.
En bas, okay. Tout à fait en bas, c'est mnl.bayeul@free.fr.
Et le site internet, le www.maison-du-néerlandais.fr. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On va faire un petit clin d'œil à nos voisins belges avec Dick Annegarn.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit, et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir, je reconnais c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu. mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Ma station, ma région, ma passion.
Radio Plus.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il faudra, petit monsieur?
Bonjour, j'aurais une baguette, s'il vous plaît.
Il la veut comment, sa baguette bien moulée?
Oui, en fait, c'était justement, je voulais vous dire...
Pardon vraiment...
Laisse-moi tourner vers un autre univers. Quittons les fours de Vulcain. Oh, ma boulangère, en pousse-pousse, nous traverserons la forêt noire pour l'opéra viennois, écouter du Mozart.
Je vous l'emballe.
Oh, ma fleur d'oranger, au paradis financier, nous serons repartis, nous dorer les miches.
La campagne.
Dégustant boule coco à l'ombre des palmiers, sous le ciel guimauve des îles Sandwich.
Alors j'ai cru dit tête
longue. Un appage léger de crème sur ton corps marbré. Nous nous enivrerons sur la plage sablée. Oh, ma chouquette.
Je vous en mets sans grâce.
Mon fruit de la passion.
En brique ou en canette?
Hein?
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non. Non, car une armée Malabar fera un coup d'état diplomate. J'enfilerai mille feuilles par-ci par-là pour les faire marcher à la baguette.
Pas trop cuite la baguette.
Mais ils tenteront de nous tuer. On se barra en cachette.
Je vous la coupe.
On se sauvera. Pas le temps de souffler pour toi, mamie. Je construirai un radeau en bâton de réglisse. Nous glisserons sur la rivière de Cacolac.
En brique ou en canette.
Je tirerai au flanc les crocodiles qui nous attaquent. Et puis on sera sauvés tous les deux, toi et moi. Dans un élan d'amour, je prendrai ta langue de chat.
Hein?
Oh mon chou.
Je vous en mets 100 grammes?
Oui, oui, oui.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Oh, ce sera
non,
tout?
Mais attends,
ce sera
non,
tout?
Non, non, non. Comment ça sera tout? On m'a promis, mais j'ai encore du rêve dans ma pochette surprise. Accroche-toi à cette ficelle.
C'est pas trop cute, la ficelle.
Et grimpons vers le ciel. Décrochons des croissants de lune. Pour nos amours en meringuée. Pour fondre dans l'espace à bord de soucoupes acidulées. Les étoiles seront à nous.
Ça sera tout?
On fera un avec l'infini, on sera un tout.
Ça sera tout?
Non.
Ça sera tout?
Non, bah attends.
Ça sera tout?
Oh non, attends.
Allez au suivant.
Quoi?
Allez au suivant, allez,
monsieur.
Je vous en prie, allez-y, allez-y.
Comment ça, au suivant?
Je vous sers quoi, la baguette?
Non, non, allez,
au suivant.
Commençons au suivant.
Bah ouais.
Ça fait une heure là que je me presse le citron pour faire des jumeaux. Tu restes frigide comme une religieuse, hein? T'es non.
Qu'est-ce qui se ramène sa fraise de bâtard? Non mais attends, y'a pas vu sa tronche de caisse?
T'as vu ta tronche de ton, toi?
Ouais, bah moi j'ai pas soufflé ta canard.
Ouais, je crois que je te quiche. Franchement.
Mais attends, mais il va t'affermer sa gueule, ta petite pièce.
Fous moi de ton boulangerie, moi. Ton racine.
Ouais, bah moi j'ai de la coupe en tronche, t'as draché.
Mais reste peigné dans tes chaussons, moisi. Boudin, va.
Non mais t'as appris ta poésie dans les carambars?
Dans les carambars.
Daniel, avec ta fraise.
Ouais, c'est ça, avec ton mari, ouais.
Daniel,
ça tue.
Daniel.
À l'instant, le rap musette de Java avec Ce sera tout sur Radio Plus, 14h passé de 26 minutes. À nouvel invité, Hélène.
Oui, je suis en compagnie cette fois de monsieur Sevet Eric, qui est représentant de l'association PI, qui signifie Programme International d'Échange. Donc je vais laisser monsieur Sevet expliquer un petit peu en quoi consiste l'association.
Parfait, bonjour.
Bonjour.
Programme International d'Échange permet à des jeunes situés en âge entre 14 et 18 ans, de partir à l'étranger, dans énormément de pays, et de pouvoir passer une année scolaire dans le pays qu'ils ont choisi. Mmh. Ça va des États-Unis au Canada, en passant par l'Argentine, le Brésil, le Mexique, et plein d'autres pays comme le Japon, enfin, énormément de pays au choix.
Le Japon, vraiment... je connais quelqu'un que ça va intéresser, qui est juste devant moi.
Oui, 14-18 ou pas?
Ah non.
Dommage.
Dommage.
Et donc, du coup, ça permet vraiment à des jeunes de vivre une expérience et familiale,
oui.
Parce qu'ils vivent au sein d'une famille, parce qu'ils sont accueillis dans une famille qui est bénévole à l'étranger. Mmh. Et donc ils vivent dans la famille comme étant l'enfant de la famille, mais ils vont aussi au lycée comme n'importe quel jeune qui habite dans ce pays, et ils se comportent vraiment comme nous, tout le monde là-bas. Donc ça leur permet d'avoir une expérience et scolaire et familiale et s'acculturer aussi au pays, parce que évidemment on vit pas pareil en France, au Japon ou bien aux États-Unis.
Voilà, donc ça veut dire combien de jeunes qui partent chaque année comme ça dans ces différents pays?
Chaque année, il y a à peu près entre 250 et 280 jeunes qui partent. Mmh. Et je dirais que le gros des départs se font vers les États-Unis. Oui. Mais il y a un pays qui aussi, beaucoup de gens maintenant demandent le Japon.
Comme par hasard.
Et ouais, comme par hasard. mais toujours aussi des choses un petit peu habituel, je dirais, comme le Mexique, Chine, maintenant qui se fait un petit peu. Oui. On a quelques participants qui souhaitent partir en Chine. Et puis, c'est déjà pas mal.
Donc, ça veut dire que vous êtes quand même implanté dans pas mal de pays, du coup, avec des bénévoles partout.
Oui, on a fait, il y a un réseau de bénévoles en France et à l'étranger, mais PIE travaille aussi avec des organismes qui sont parallèles aux organismes comme PIE à l'étranger, comme par exemple ASSE aux États-Unis ou au Mexique. Donc on s'appuie toujours sur des organismes qui sont présents dans le pays et qui connaissent bien le pays, puisqu'ils y sont implantés.
Hélène ?
D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs programmes.
Oui. Donc il y a le programme année scolaire, dont je viens de parler. Il y a aussi un programme qui s'appelle 2x6. Donc le participant part 6 mois dans un pays, puis 6 mois dans un autre. Donc là, évidemment, le choix est limité. On fait USA-Allemagne, USA-Espagne, USA-Italie, Mexique et USA-Argentine. Mais ça permet à ces jeunes aussi de pouvoir avoir deux expériences en une seule année scolaire. Des expériences très différentes, forcément, si on va au Mexique, aux États-Unis, ce sera vraiment très, 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 très différent et très dépaysant. Et il y a aussi un autre programme qui s'appelle Échange Trimestre, qui se fait avec l'Australie et avec le Canada, sur lequel on s'appuie toujours et on collabore toujours en partenariat avec d'autres organismes tels que PIE, et qui permettent aussi, donc là, c'est sur un trimestre. Le jeune français part 3 mois dans la famille d'un jeune Canadien. Et en échange, le jeune Canadien est accueilli dans la famille française pendant 3 mois. Mmh. Et là, sur vraiment cette courte période du trimestre, ça commence déjà à faire une petite expérience pour le jeune, puisqu'on là, il peut y avoir des jeunes à partir d'une douzaine d'années.
Très bien.
D'accord. Et quel est le coût de ces programmes?
Alors évidemment, tout dépend du pays dans lequel on va.
D'accord.
Ça va de 11 900 € pour une année complète en séjour aux USA. À 10 000 euros en Argentine. Enfin, je veux dire, c'est si vous voulez souhaiter partir en Espagne, ce sera 8 800. En Allemagne, ce sera 8 400. Bon, évidemment, ce sont des tarifs qui sont assez élevés, mmh. mais qui comprennent toujours et le vol, qui reste des vols ouverts, et les assurances, et l'accompagnement sur place. Parce qu'en fait, les associations avec lesquelles, ou les organismes avec lesquels on travaille à l'étranger, sont toujours présents à l'étranger. Il y a toujours un représentant de l'organisme qui est proche du jeune à l'étranger. Donc le jeune n'est jamais lâché dans la nature comme ça. Il est toujours épaulé s'il y a besoin.
Suivi, d'accord.
Et il y a un suivi sérieux de la part de nos partenaires avec lesquels on travaille, puisqu'on est vraiment une relation importante pour eux. Parce que eux aussi nous envoient des jeunes en France. Le programme PIE a aussi un programme accueil.
Oui.
Et donc quand on accueille des jeunes étrangers, c'est toujours aussi bénévolement que les familles accueillent les jeunes étrangers. Et puis évidemment, ces jeunes étrangers sont aussi suivis par les gens de PIE pour ne pas qu'ils soient... pour ne pas laisser les familles seules et puis les jeunes seuls aussi.
Comment sélectionnez-vous les familles d'accueil?
Déjà, il faut qu'elles le souhaitent.
Oui.
Parce que c'est évident que si quelqu'un ne souhaite pas accueillir, il n'accueillera jamais et ça ne se passera jamais bien. Par contre, si la famille a une envie d'accueillir un jeune étranger, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un étranger à la maison pendant une période scolaire, par exemple, parce que ça permet déjà à la famille de voyager sans bouger et de savoir vraiment quelle est la vie dans le pays du jeune, quoi. Nous, par exemple, on a accueilli déjà de nombreuses fois aussi bien des jeunes thaïlandaises que des jeunes américaines ou mexicaines. Et la vie en Thaïlande est vraiment, vraiment très différente de la vie en France.
Et qu'est-ce qui est différent, par exemple?
Tout est différent. La vie à la maison est différente. En Thaïlande, il fait toujours très chaud.
Oui.
En France, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, c'est pas toujours le cas. Du coup, on laisse moins les portes ouvertes, on joue moins avec l'eau dans la salle de bain. Enfin, un tas de choses comme ça qui sont logique en Thaïlande et moins logique en France. Et aussi la relation avec l'adulte, par exemple. En Thaïlande, un jeune va... Un exemple bête, juste un petit exemple. Au début, on a accueilli notre première accueil thaïlandaise, ce qui s'appelle Nist. On discutait avec elle, elle était à l'étage, nous étions au rez-de-chaussée. Et à chaque fois qu'on l'appelait, elle descendait les escaliers pour venir nous voir. pour dire oui, non, enfin, même pour une bricole, pour un... elle voulait toujours descendre pour nous voir. Et au moment, on lui a dit, ben, pourquoi tu restes pas là-haut et tu me réponds de là-bas, forcément. Et non, parce que c'était dans son pays, c'était pas logique que le jeune soit au-dessus de l'adulte quand il lui parle. Mmh. Voilà. Donc la relation était vraiment différente de par sa fonction dans la famille, on va dire.
Donc, c'est des petites choses qui sont. Cet aspect ouais, du comportement, respect oui. Donc vis-à-vis de l'adulte, etc.
Oui, quoi. Et puis même le fait de se dire bonjour, on se fait la bise en France, en Thaïlande, on se fait pas la bise. Quoi. Ça, c'est la première approche. Sur le quai de la gare, c'est la première chose qu'on voit. Voilà. Il y a un petit recul de la part des jeunes, parfois, parce que culturellement, ça ne se fait pas. Mmh. Bon, après, les mois passants, ils s'habituent très bien, ils sont très bien à la vie française. Et en général, quand ils repartent avec un très très bon niveau de français. Et ça fait toujours plaisir de voir que les jeunes qu'on a accueillis repartent avec un niveau de français qui soit très très bon.
Ça veut dire aussi combien de jeunes qui viennent ici en France que vous accueillez ?
Une centaine de jeunes par an, 100, 150, ça dépend des années. Mmh. Qui sont aussi dilués, je dirais, dans toute la France. Parce que évidemment, quand il y a un jeune américain ou un jeune thaï qui veut venir en France, pour lui, la France, c'est Paris et la Côte d'Azur. Mmh. Sauf qu'on a rarement de placement que sur Paris et que sur la Côte d'Azur. Donc voilà, donc il y a beaucoup de placements qui se font partout en France, aussi bien à Béthune-Beuvry qu'à Metz, qu'à Nantes et autres régions plus reculées.
Qui sont les jeunes étrangers qui viennent en France ? Quelle origine ? Ce sont surtout des pays asiatiques, anglo-saxons, vous parliez des Américains, etc.
Il y a, toute nationalité, mexicaine, américaine, canadienne. Il y a vraiment un mélange de plein de nationalités. Rien ne ressort plus que d'autres, en fait. Il y a pas de... Nous, Français, enfin, les jeunes Français partent, aiment bien partir aux États-Unis parce que c'est le rêve américain. Mais les étrangers, quand ils viennent en France, effectivement, il y a énormément de jeunes qui viennent pour découvrir aussi.
Et quand les jeunes viennent comme ça dans une famille d'accueil, est-ce que la famille d'accueil doit avoir une certaine, enfin, des bases dans le langage ou comment les échanges se font ?
Non, il n'y a pas forcément justement d'échanges en anglais, parce que c'est principalement, généralement, l'anglais qui domine dans tout ce qui est échange, même quand il y a un jeune thaï qui arrive en France. Évidemment, c'est plus facile au début pour expliquer comment on fonctionne, comment la famille... Parce que malgré tout, un jeune qu'on accueille chez lui, on lui donne la clé de la maison aussi. Donc il faut qu'il comprenne que quand il sort de la maison, il doit fermer la porte à clé, par exemple. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Mais ça s'explique. Et ça, il faut s'assurer que ce soit bien compris. Donc effectivement, la passerelle anglaise est facile pour ça. Mais ils viennent aussi en France pour apprendre le français. Donc je pense que parler français avec eux, ça peut leur faire que du bien. Et comme ils sont venus pour ça, c'est parfait.
Et du coup, est-ce que les personnes de la famille d'accueil ont essayé aussi d'apprendre la langue de l'étranger qu'ils accueillent ?
C'est toujours plus compliqué. Je crois que certains aimeraient bien. Mais en fait, le français domine en France. Et effectivement, quand on accueille un jeune dans sa famille, c'est pour qu'il apprenne le français et c'est pas pour que nous apprenions sa langue maternelle.
Parce que là, vaut mieux partir à notre tour dans ce cas-là.
Exactement, ce serait bien. Mais bien souvent, après l'année qu'ils ont passée en France, on a un foyer qui nous est ouvert à l'étranger. Et du coup, ça peut permettre effectivement d'aller lors d'une visite et s'essayer à la langue. Je me suis essayé au thaï, mais c'est pas mon fort, pas du tout.
Bon, pourtant, c'est bon le thaï, moi.
Là, une nourriture, oui. Ce qui est bien aussi, c'est ces échanges culinaires parfois. Oui. Parce que les jeunes Français disent que la cuisine française, c'est quand même quelque chose. Mais moi, je trouve que la cuisine étrangère, c'est quand même bien aussi. Et quand c'est préparé par quelqu'un du pays, la seule difficulté, c'est de trouver les bons ingrédients.
Ça aussi, oui, qui n'est pas forcément évident.
Oui.
Alors, je voulais vous demander justement, au niveau des inscriptions, ça se passe comment ? Est-ce que vous avez des délais, des deadlines pour employer un terme anglo-saxon ?
Oui, il y a des dates limites d'inscription. Tout dépend du pays dans lequel on souhaite aller. Et puis tout dépend aussi du nombre de places qu'on a disponibles dans ces pays-là. Parce qu'on travaille avec des partenaires qui nous disent, cette année, vous pouvez postuler sur autant de places. Voilà. C'est aussi en termes de places disponibles dans les pays qui rentrent en ligne de compte dans les inscriptions. Mais de toute manière, pour ce qui est États-Unis, c'est par exemple, ça sera bientôt la fin des inscriptions.
D'accord. On a jusqu'au camp, là si on veut s'inscrire, vous ne savez pas. Donc, on va regarder sur votre site internet, du coup.
Le site internet est très, très bien fourni, très bien documenté. Il y a aussi une plaquette sur, où vous pouvez demander ou avoir en ligne, où il y a toutes les informations sur les conditions générales, les tarifs, les, qui on est en, qui paye, où se trouve payeur en France, quelles sont les personnes, s'il y a des bureaux, on a des bureaux en fait à Paris, à Aix-en-Provence et un dans l'Ouest. Après, il y a un réseau de, bénévoles et de délégués comme moi ici, qui habite à Beuvry, qui suis délégué bénévole. Et puis, payeur est de toute manière est labellisé avec le contrat qualité de l'Office. Et puis, il y a aussi, payeur est aussi membre de l'UNSE, qui est l'Union nationale des séjours de longue durée. Donc, ce sont des petits points qui sont quand même importants, qu'on s'y a un contrat comme ça, quoi.
Et pourquoi vous avez eu envie, vous, de devenir bénévole ?
À un moment de notre vie, on s'est dit, ce serait sympa d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui aimerait bien savoir comment on vit en France. Mmh. Et du coup, nous, on a commencé non pas par envoyer nos enfants, bien que les parents n'envoient jamais leurs enfants, c'est les enfants qui décident de partir. Mmh. Mais du coup, on a commencé notre expérience par l'accueil, ce qui est parfois un petit peu étonnant, mais bon, accueillir, c'est voyager aussi, donc je trouve que c'est très très intéressant.
Et du coup, ça fait combien de temps ?
Ça fait maintenant 15 ans qu'on est dans l'association et on a accueilli, je vous disais, 11 jeunes sur de longs séjours. Et on est en 2018. Bah, les premiers qu'on a accueillis, on est toujours en relation avec eux. Oui. Ils ont maintenant une trentaine d'années, ces jeunes-là. Mmh. Et on est toujours en relation avec eux. On a toujours des rapports très intéressants et plus ou moins suivis suivant les activités des uns et des autres. Mmh. Et voilà, la dernière qu'on ait vue, par exemple, c'est une jeune Mexicaine qu'on avait vue il y a 13 ans.
Oui.
Et chez qui on a fêté l'anniversaire des 29 ans, chez elle, au Mexique.
Ah bah, c'est
donc
chouette,
c'était une super ambiance et expérience de voir un petit peu notre fille mexicaine là-bas. Donc on a des filles un peu partout dans le monde.
Hélène.
D'accord. Et donc si je voudrais devenir famille d'accueil, quelles sont les démarches que je dois effectuer
Bah, vous nous contactez, PIE, vous avez tous les renseignements sur le site internet. Mmh. Et puis un bénévole, je pense, va venir vous rendre visite.
Oui, d'accord, il y a tout.
Oui, on va vous rendre visite, on va visiter votre maison, voir déjà si vous avez
l'espace
pour accueillir un jeune, parce que malgré tout, on peut accueillir un jeune s'il faut qu'il ait son espace personnel, donc sa chambre.
Sa chambre, oui.
Au moins sa chambre, parce qu'il faut qu'il ait son espace à lui, comme ont tous les enfants de la famille, leur espace à eux, pour pouvoir vivre tranquillement et être tranquille de temps en temps sans les parents sur le dos. Quoi.
D'accord.
Et puis après, bah, chacun vit comme il le souhaite, et puis s'il part un week-end voir les grands-parents, bah, le jeune fera partie du voyage parce qu'il fait partie de la famille.
D'accord.
En gros, c'est le maître mot de l'accueil, c'est ne pas changer ses habitudes parce qu'il y a quelqu'un d'étranger qui va devenir quelqu'un de la famille. Si on ne change pas ses habitudes, tout se passe bien.
D'accord. Merci.
Très, très bien.
Voilà. Et je terminerai juste pour sur un autre programme qui est assez récent à PIE, ça s'appelle PIE Campus, où là, ça s'adresse plus à des jeunes qui ont le bac.
Oui.
Et PIE est en partenariat avec des universités aux États-Unis et fait de la recherche de bourse pour les jeunes Français qui souhaitent faire des études en université aux États-Unis. Donc il y a un programme qui s'appelle PIE Campus et qui vous explique tout ce qu'on fait et tout ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes Français qui souhaitent passer un cursus universitaire là-bas.
Oui, parce que à la base, vos autres programmes s'adressent plus aux 15-18 ans.
14-18 ans, voire 12-18 pour certains.
Oui.
Alors que là, c'est vraiment poste pour ceux qui ont vraiment qui sont encore scolarisés en lycée, on va dire.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, je vais peut-être donner le site internet. Je crois que c'est www.piefrance.com.
Exactement, tout à fait.
Avec tous les détails sur justement partir une année scolaire à l'étranger, faire un échange trimestre, accueillir un lycéen étranger, des études universitaires, etc. Oui, je dis bien sur le site internet.
C'est bon, il est à jour.
Voilà, eh bien merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous souhaite une bonne fin de salon. J'espère que d'ailleurs que pour vous le salon est fructueux.
Oui, tout à fait. Il y a plein de gens qui demandent des renseignements et c'est juste ce qu'il fait. C'est parfait. Je vous remercie.
Merci
à vous. À très bientôt.
Au revoir.
Petite pause musicale avec Depeche Mode.
In a
Take My Breath Away. Ça, c'était Berlin, je sais pas comment on peut dire ça, mais enfin voilà. C'était sur Radio Plus en tous les cas. Il est 14h50. On va avoir un petit peu moins de 5 minutes pour cette interview avec Hélène, donc un nouvel invité.
Oui, donc cette fois je suis en compagnie de Monsieur Boussmar Rémy, qui est représentant de l'OFAJ, donc qui signifie Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Donc, je vais vous laisser expliquer en quoi consiste cet office.
Oui, alors l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse a été fondé en 1963 avec le traité de l'Elysée qui a été signé par Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Pour donner, le sens de l'OFAJ, c'est un organisme ministériel qui sert à promouvoir les échanges franco-allemands et surtout au niveau de la jeunesse avec des jeunes, donc ça va de 3 à 33 ans. Peut-être à titre d'exemple, au niveau des chiffres, c'est 8,4 millions de jeunes de France et d'Allemagne qui sont déjà partis à l'étranger grâce à l'OFAJ et c'est environ 200 000 jeunes par an. Voilà.
D'accord, et donc est-ce qu'il y a un coût ou alors une subvention?
Alors oui, l'OFAJ, vu que c'est un organisme public, ouais, souvent ne demande pas de coût, et c'est au contraire des subventions qu'il donne. Par exemple, si vous faites une mobilité en Allemagne, l'OFAJ peut se charger du coût de transport ou peut même vous subventionner si vous devez avoir un logement. Par exemple, dans le cadre d'un stage dans une entreprise allemande, si vous êtes français, vous pouvez demander à l'OFAJ des subventions pour votre logement. Voilà, c'est ce genre de choses que l'OFAJ permet.
D'accord, et c'est votre premier salon?
Ouais, c'est mon premier salon, et pour l'instant, on a eu beaucoup de réponses positives, beaucoup de gens qui sont venus nous voir, qui ne connaissaient pas l'OFAJ ou leur seul moment de nom, et qui sont très intéressés par ce que nous proposons, voilà.
D'accord, je sais pas si tu as une question, Jean-Philippe.
Oui, alors vous, personnellement, ça veut dire que vous avez déjà pu faire des échanges, des choses comme ça?
Ouais, exactement. Moi, c'était en classe de seconde, donc il y a quelques années déjà. Ouais. J'étais parti, grâce à l'OFAJ, pendant 6 mois à Berlin. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Je l'ai pas fait exprès. Hein.
Ouais. Là, c'était un bon rapport. Et donc, ça m'a permis d'aller 6 mois dans une famille qui m'a servi de famille d'accueil, avec qui j'ai pu développer des liens. J'ai pu apprendre la langue, mais aussi la culture, les traditions allemandes, et c'est ce qui m'a poussé à en fait m'engager pour l'OFAJ en tant que jeune ambassadeur.
D'accord.
Parce que j'avais envie de pouvoir donner cette opportunité au plus de monde possible.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté, sur le plan des études, et peut-être des perspectives d'avenir?
Ouais, et ben ça, c'est, au niveau des perspectives d'avenir, moi maintenant, grâce à l'OFAJ et en tant que jeune ambassadeur OFAJ, j'ai beaucoup envie de m'investir dans tout ce qui est relations internationales, dans l'Europe, puisque en ce moment on voit que l'Europe a quelques soucis, et en tout cas c'est le moment ou jamais pour la changer, l'améliorer. Et c'est ce qui me motive tous les jours à être jeune ambassadeur OFAJ et à promouvoir l'amitié franco-allemande.
Voilà, donc pas mal de choses évidemment en perspective.
Ouais.
Si on souhaite en savoir plus sur l'OFAJ, comment fait-on?
Alors, on peut aller sur le site de l'OFAJ, c'est www.ofaj.org, où il y a beaucoup d'informations sur les projets que lance l'OFAJ, sur les opportunités de mobilité qui sont possibles. Et sur l'information en général sur les relations franco-allemandes. Voilà.
Un salon comme celui-ci, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est très bien parce que déjà c'est décentralisé. Moi par exemple je viens de Lille où il y a beaucoup de salons, de cafés où on peut échanger sur les langues, tout ça. Et c'est bien qu'il y ait des salons comme ça dans les villes moyennes comme Béthune qui permettent... À tous de pouvoir découvrir ce genre d'opportunités, l'OFAJ, mais aussi beaucoup d'autres.
Eh bien, merci beaucoup
à vous.
D'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté donc l'OFAJ. Donc, on va peut-être donner, je sais pas s'il y a un numéro de téléphone sur l'OFAJ.
Non, il n'y a pas de numéro de téléphone, mais sur le site de l'OFAJ, on peut contacter les jeunes ambassadeurs directement par leur mail. Et. Il y a beaucoup de moyens. Vous allez sur le site de l'OFAJ, il est très complet, vous inquiétez pas.
Eh bien, merci à vous. On vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, nous, on se retrouve d'ici 5 minutes pour la suite de notre direct, Hélène. Ouais. Vous êtes